Canal Sud 92.2. Je n'ai pas changé d'indicatif, hein, mais quoique, je pense que ce rossignol serait une entrée en matière tout à fait indiquée pour les chroniqueurs. Puisqu'aujourd'hui, on fait un chroniqueur, on fait le chroniqueur de notre ami René Aznar, qui est un amoureux de la nature et qui va nous faire un très beau voyage, pas très loin. Très loin, tout près de chez lui en particulier. Et vous pourrez vous promener après l'émission, vous pourrez vous promener sur son site. Vous ne perdrez pas votre temps, je vous promets. Bonjour René, si tu peux te présenter.
Bonjour Daniel. Enfin, le jour est arrivé.
Voilà, voilà.
Bon. Je peux me présenter, je m'appelle René Franck, et je suis photographe animalier, voilà. Je suis à la retraite, j'ai 76 ans, et voilà.
Bon, photographe animalier, c'est un petit peu réducteur comme présentation, parce que sur ton site, on trouve énormément de choses, et pas seulement que des animaux. Hein. Bon, moi, j'ai été très, très impressionnée par les photos de végétaux et les photos sur le givre, parce que le givre habille n'importe quelle ferraille ou quel débris et en fait un chef-d'œuvre. Alors, je voudrais bien que tu nous parles de tout, de tout, de tout.
Très, très gourmande.
Ah oui, là, dans ce domaine-là, absolument, oui, complètement.
Ouais. Ouais, alors, oui, voilà, je suis photographe de la nature, surtout. Beaucoup plus qu'animalier, je suis photographe de la nature. C'est-à-dire tout ce qui se passe autour de moi et qui est un petit peu anachronique ou qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je m'empresse de le mettre sur photo de manière à ce que cela ne nous échappe pas et que l'on puisse le conserver. En parlant du givre, il est vrai que certains matins, en plein hiver, au moment de prendre son véhicule, on est émerveillé ou on s'en aperçoit même pas des fois de ce qui se passe devant nos yeux. Et c'est là que tout commence. C'est-à-dire qu'il faut être observateur et voir. Des fois, le matin, il y a des véritables chefs-d'œuvre sur un pare-brise. Mais quand je dis chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Et en se promenant aussi, lorsque par une nuit bien glacée, on s'aperçoit que la nature a complètement changé et elle est habillée de blanc, de pique et de tout un tas de... Elle a changé, la nature a changé. Oui, en ce qui concerne les givres, moi je parle là, hein. Et voilà, et donc ça fait partie de la nature. Et bien sûr, je suis absolument friand de tout ce qui peut se passer autour de moi, concernant la nature.
Oui, et donc, toutes les photos du site où je me suis promenée, elles ont été prises dans la région, donc j'ai vu à 5 km autour de
chez moi.
De votre domicile.
Oui, oui, je ne m'éloigne pas trop. Il y a énormément de choses à faire autour de soi. Alors quand on habite en ville, on peut rester en ville et faire des photos de rue et tout ça. Et moi, j'habite à des petits villages. Alors, je fais quatre pas et je suis vraiment en pleine nature.
Moi, j'ai vu beaucoup, je me suis beaucoup intéressée sur ton site aux insectes. Les plus petites bestioles qu'on n'a même pas l'habitude d'imaginer, parce qu'on ne les regarde pas, parce qu'on marche trop haut, trop vite ou trop haut. Ouais. Et pourtant, elles sont autour de nous, où que nous soyons, que ce soit à la campagne ou à la ville. Hein. À part les mouches, les moustiques et les guêpes, les insectes, les citadins en particulier, ils ne connaissent pas. Hein.
Oui.
Il y a les puces aussi. Hein. Si on a des chats ou des chiens, un jour ou l'autre, on fait connaissance avec les puces. Mais c'est un peu réducteur hein, comme présentation.
Disons que dans les insectes, il y a, là aussi, il y a matière. C'est vrai, je ne m'intéresse pas aux abeilles suffisamment.
Ben pourtant.
Quoi qu'elles sont super importantes.
Oui.
Mais bien sûr, je préfère m'arrêter sur des papillons majestueux,
oui,
sur
oui.
Des insectes beaucoup plus rares, tels que les mantes religieuses, que les ampuses.
Les quoi ?
Les ampuses. L'ampuse ressemble à la mante religieuse, mais elle est totalement différente. C'est de la même taille qu'une mante religieuse, mais c'est une famille totalement différente. Une ampuse, ça a une... Comment dire ? Non, il faudrait voir les photos.
Oui, il faut voir les photos.
Voir
alors,
les photos.
Ben, peut-être que les auditeurs peuvent ouvrir ton site en
et
même temps
chercher.
Qu'on fait l'émission.
Eh ben, c'est simple, il suffit de taper sur Google, voilà. Ampusa penata. Ampusa. Ampusa. Ou Ampusa penata.
Ça s'écrit comment ?
E-M-P-U-S-E. Voilà, on a Ampusa.
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 Oui.
Et là, souverain. La différence entre la mante religieuse et l'ampuse. Alors, le mieux, c'est de venir sur le site.
Oui, oui, c'est ça. www.vuposer.
vuposer.fr.
Voilà,
vuposer.fr.
Oui. Il ne faut pas être trop pressé parce qu'il s'ouvre, il met quelques secondes à s'ouvrir à partir de la grande photo.
Oui.
Moi, j'ai cru qu'il y avait un blocage. J'ai dit, ça y est, je ne pourrai encore pas le faire. Quand on ouvre le site côté insectes, donc, moi, j'ai vu le xylocope violet.
Le xylocope.
Xylocope
violet.
Xylocope violet.
Alors, celui-là, c'est un copain.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Ah, celui-là, c'est un copain.
Oui.
J'ai une vieille bûche devant les escaliers dans mon jardin et j'ai une famille de xylocopes violets qui y vivent et chaque printemps, j'ai le plaisir de les voir sortir. Ils sont deux ou trois, je ne sais plus. Je ne sais pas, c'est très... C'est-à-dire qu'ils se ressemblent tellement que je ne sais pas.
Il faut leur demander leurs
voilà.
papiers.
Il faut leur demander les papiers, oui. Et ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Ça fait des années qu'ils habitent près de moi. Et ils sont habitués. Je les vois tout l'été. Ils viennent sur mes sauges et ils butinent parmi les abeilles.
Est-ce que c'est ou non une espèce d'abeille ?
On pourrait le classer... Oui, on pourrait dire que c'est comme une espèce d'abeille, parce que ça butine, ça a les mêmes mœurs.
Voilà.
Ça a les mêmes mœurs que tous les insectes qui butinent.
Oui. Hein,
ils viennent, ils prennent du nectar, et de ce fait, ils multiplient les nectars d'une fleur
oui.
à l'autre.
Oui.
Ce que la nature a besoin, donc, c'est
oui.
exactement ce que la nature a besoin. Et. Oui, on pourrait les classer. On pourrait les classer parmi les abeilles.
Moi, je voulais savoir si d'autres insectes qui leur ressemblent
oui.
avaient les mêmes capacités.
Oui.
Par exemple, bon, j'étais très impressionnée par l'abeille qui a fait son marché. Elle trimballe des petits ballons à ses
oui.
pattes arrière.
Oui, oui, oui.
Est-ce que les autres hyménoptères se promènent aussi avec des valises ?
Oui, oui, oui.
Il y a
pas mal d'insectes comme ça qui permettent la reproduction de toutes les plantes et tout ça par la multiplication des nectars et tout ça. Il y en a beaucoup d'insectes.
Il y en a beaucoup.
Tous les insectes butineurs, ils sont mellifères et ils sont...
Ah, ils sont tous mellifères, donc ils ont...
Pas tous, mais la plupart sont mellifères.
Dans leur provision,
ouais.
ils préparent l'hiver et ils font du miel. Il me semblait bien que ça existait pour les guêpes, ça, qu'elles font quelque chose qui y ressemble, non ? C'est plutôt leur habitat qui ressemble un peu à cause
c'est
des
plutôt,
à
oui,
cause des
c'est plutôt l'habitat qui ressemble
des petites
sinon les guêpes
des
sont quand même différentes
oui, oui. Alors j'ai vu des choses magnifiques On assimile souvent les coléoptères soit au gros bousier sur lequel on risque de marcher dans la campagne, soit aux coccinelles. Oui. Alors, mais il y a des coccinelles jaunes aussi.
Il y a des coccinelles jaunes, oui. Exactement.
Oui. Je me demandais si ça voulait dire quelque chose. Est-ce que c'est une espèce? Est-ce que c'est une histoire d'âge? Comment se fait-il qu'il y ait des coccinelles à 7 points? À 16 points aussi, j'ai vu.
Hein. C'est des familles.
C'est des familles.
Ce sont des familles. Ce ne sont pas les mêmes insectes.
Ce ne sont pas les mêmes insectes.
Non, oui. Non.
Oui. Ah bon. Oui, ben c'est comme les êtres humains. Hein. Voilà, on est tous des êtres humains, mais il y a des familles. Voilà.
Oui. Oui. Et nous sommes différents.
Voilà. J'ai vu. Le nom m'avait surpris. Téléphore fauve.
Oui.
Alors, il semble que ce soit aussi un coléoptère.
Oui, ça fait partie, oui, des insectes coléoptères. Oui.
Voilà.
Il y en a des multitudes, bien sûr. Oui. Et on est obligé, souvent, d'avoir affaire, bien sûr,
bien sûr,
à des livres spécialisés pour pouvoir
les identifier. Hein, oui, bien
de toute
sûr,
façon,
bien
c'est sûr qu'arriver au niveau là où je suis absolument attaché à mes livres, quoi.
Bien sûr. J'ai vu aussi un téléphore. Alors, téléphore, je relis mes notes prises à la main.
Drôle de nom.
J'ai pas mis téléphone quand même, faut pas exagérer. Alors, téléphore fauve.
Fauve, oui.
Alors, il a des grandes pattes, d'accord, et il a aussi des antennes que j'ai peut-être nommées en exagérant, antennes télescopiques. Je pense pas que ce soit exactement ça, mais bon,
faut bien ça s'accorde bien avec téléphore.
Voilà, c'est pour ça. Mais je me demande pourquoi cette bête porte ce nom de téléphore. Il y a quand même un problème là.
C'est les personnes qui l'ont identifié, ils ont dû avoir des soucis.
Oui, ils ont dû avoir, je sais pas, des ondes particulièrement actives. Oui. Voilà. J'ai vu une abeille, quelque chose qui ressemble beaucoup à une abeille, mais qui est noire et blanc. Noire et blanche.
Oui.
Et je crois que... Alors,
une cirfe.
Oui, c'est une cirfe. Cirfe pyrastre, oui,
voilà.
C'est ça.
Il y a de très très belles cirfes. Oui. Et elles ont la particularité, les cirfes, d'être facilement photographiables. Parce qu'elles font au-dessus des fleurs, elles font du surplace, ce qui donne le temps de faire des mises au point et de faire de très belles photos des cirfes. C'est entre la mouche et les abeilles. Voilà, okay. Ce ne sont pas des mouches, ce ne sont pas des abeilles, c'est une particularité, la cirfe. Et il y en a une quantité différente.
Oui. Bon, je ne veux pas énumérer tous les insectes que j'ai trouvés sur le site, parce que les auditeurs peuvent les retrouver. Par contre, ce qu'ils ne retrouveront pas, c'est l'histoire des lucioles. Comment as-tu rencontré les lucioles?
Oh là là, là, là. Quelle histoire. Alors, j'ai 76 ans. Et je pratique la photo depuis longtemps. J'ai les yeux ouverts depuis 76 ans. Et depuis l'âge de tout petit, j'ai été absolument observateur de tout ce qu'il y avait autour de moi. Alors vous pensez bien que rien ne m'échappe. C'était en 1960, autour de 1960 ou 68, par là. J'étais en moto et j'étais sur la Côte d'Azur. Au-dessus de Nice, j'ai trouvé un petit endroit, un petit chemin, parce que je me déplaçais avec ma moto, j'étais juste en vacances, comme ça, une échappée que j'avais fait. J'avais pris sur ma moto de quoi me nourrir, partiellement, comme ça, et un petit sac à dos, et un sac de couchage surtout. J'ai cherché un petit endroit où me reposer pour la nuit, au-dessus de Nice. Il faisait très beau, une nuit d'été, donc il n'y avait pas de souci. J'ai trouvé un petit chemin qui montait dans la colline, au-dessus de Nice, et de là-haut, j'observais, j'avais toute la baie éclairée et toute la plage de tout le secteur de Nice sous mes yeux. Et ma moto fonctionnait toujours, je l'ai mis sur pied, sur cale-pied, et je l'ai éteint. Jusque-là, tout allait bien, il n'y avait rien de spécial. J'ai éteint ma moto pour contempler la baie. Et d'un coup, j'ai été tapé de stupéfaction, parce que j'étais entouré de lumière qui volait dans tous les sens. Et vraiment, mon premier truc, c'est d'être effrayé, quoi. Mmh. Parce que jamais j'avais vu un truc pareil. Et j'étais dedans, en plein, dans le nuage, quoi. J'ai rallumé les phares de ma moto. J'ai éclairé les insectes pour voir qu'est-ce que c'était qu'il y avait autour de moi. Et j'ai vu que c'était des petits insectes volants. J'ai réussi à en attraper un avec la main. Et j'ai vu que c'était des lucioles.
Et alors, c'est comment? C'est fait comment, les lucioles?
La luciole, c'est un insecte un petit peu long. C'est comme une lampuse. C'est une lampuse. C'est un insecte un peu plus long, un peu long. On en trouve par terre, sur le sol, en été, dans nos jardins, et qui brillent. Elles ont le ventre qui brille. Mmh. Ça ressemble comme un petit truc de rien du tout, quoi. Comme un petit hanneton, un petit truc de ce style, vous voyez.
C'est différent.
C'est le ver luisant.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est le ver luisant.
De la famille des vers luisants. Mais attention, dans les vers luisants, il y a plus de 2000 espèces. Ça fait partie des vers luisants.
Les lampières, oui.
Ça fait partie des lampières.
Et puis moi, je vois la suite, peut-être. J'ai beaucoup regardé et puis pris des notes sur les mantes religieuses, bon, oui, qui sont célèbres par leur férocité et leur sens particulier de la vie conjugale. Mais je voudrais bien savoir l'Ootech,
voilà. L'Ootech, c'est ce qui permet à la mante religieuse de se reproduire. À la fin de la saison, en automne, la mante religieuse fait une bave qu'elle sort comme ça, et qui se colle sur... Ça ressemble à une mousse, mais de suite elle se durcit, et à l'intérieur, il y a tous les œufs. Cette mousse va passer l'hiver là où elle est, collée à son support, c'est-à-dire une pierre ou un muret. Et vers le mois de juin vont naître les mantes religieuses. Alors c'est un spectacle fascinant parce que c'est tellement petit. Et il y a des centaines de petites... mantes religieuses qui naissent, elles sont toutes mignonnes, toutes plus belles les unes que les autres, vu qu'elles sont très très petites.
Oui, oui. Je me demande la taille que ça peut avoir à la naissance.
Ça peut avoir la taille de 5 mm, 6 mm. 5-6 mm.
Oh, oui. Pourtant, la bestiole, elle fait presque 10 cm quand elle est adulte. Peu étalée pour peu qu'elle s'étire.
Ah oui, mais après, une fois qu'elle grandit, bien sûr, elle peut faire les 10, 12 cm
oui,
même.
Oui, c'est ça. Hein? Oui.
Mais à la naissance, c'est vraiment petit et il y en a des centaines dans l'Ootech.
Oui.
Ça aussi, c'est intéressant à découvrir. Ce sont des choses que j'ai travaillées pendant, j'ai mis du temps. Voilà, parce qu'en plus de ça, la photographie, c'est ça, c'est la patience, une grande patience. Il faut attendre. Quand on trouve une Ootech, par exemple, on attend. Mais on ne la perd pas de vue.
Il faut la reconnaître aussi. Comment est-ce qu'on peut reconnaître ça?
C'est facile quand on en a vu une. Quand on en a vu une, on les a vues toutes. Hein.
Oui.
C'est tellement particulier. C'est comme une mousse collée à un mur.
Il faut faire des photos de haut-tech. Hein.
J'en ai des photos de haut-tech. Et c'est dans mon jardin. En plus de ça, j'avais un jardin, moi, je le passe à la loupe. Hein. Mmh. Il n'y a rien qui ne m'échappe dans le jardin. Mmh. Là, j'ai eu la chance de faire la naissance des mantes religieuses. Mais autre chose, j'ai fait la naissance aussi des cigales.
Ah oui ?
Ah oui, parce que il est facile de trouver une cigale, une mue de cigale, c'est-à-dire comme un petit insecte tout collé sur un mur, sur un arbre et tout ça, qui est inerte. Hein. C'est une exuvie, c'est-à-dire que c'est une enveloppe vide.
Oui.
Exuvie. Une exuvie. Combien de fois j'ai trouvé dans mon jardin des cigales ? Heureusement que j'en ai profité parce que vers ces dernières années, il n'y en avait pratiquement plus. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, je vous parle d'il y a une quinzaine d'années. Tous les étés, dans mon jardin, j'avais des cigales. J'avais un arbre particulier qui accueillait des cigales. Mais alors, je voyais des cigales. Et toujours la question qui me tarabustait, c'était comment elles arrivent là ? En volant, en rampant, comment elles arrivent là ? Eh bien, c'est pareil. J'ai mis des années, pour aller surveiller, à observer, pour connaître le système de comment ça venait. Bon, connaître, ça, c'est pas bien difficile. On ouvre des livres et c'est marqué dessus. Hein. Mais il faut le voir.
Il faut le voir, oui.
Il faut le voir. Eh bien, j'ai réussi, année après année, à assister à la sortie de terre de la cigale à son état de hanneton. Elle est comme un hanneton, comme le pouce. Elle sort d'un trou de terre.
C'est une lymphe de cigale.
C'est une larve. Et elle doit bien être à 80 cm au moins minimum. Enterrée sous la terre. Elle fait une galerie.
Ouh là là !
Elle fait une galerie et 80 cm à 1 mètre, elle remonte, elle sort, elle trouve une partie verticale, elle grimpe et elle s'arrête environ à 50 cm, 1 mètre, et là son travail commence. Elle commence à changer dans la couleur. Elle est magnifique, d'ailleurs. Elle fait des couleurs or, vert. Il y a de très, très belles couleurs. Et il faut savoir que, sous terre, elle est restée près de 4 ans. 4 années sous terre, à l'état de larve.
Et elle mange quoi ?
Elle se nourrit. Elle sort, elle se promène dans sa galerie et elle attrape tout ce qui est les insectes et tout ça, des petits trucs microscopiques. Voilà, elle doit se nourrir comme
ça. 4 ans ?
Ah oui, pendant 4 ans. 4 ans, tout ça.
C'est le record de gestation, ça.
Ça, c'est le record de gestation. Puis pour un record aussi de petite vie. Parce que 4 ans à attendre.
Et après ?
Après, eh ben, elle naît. Elle sort au mois de mai. Juin, juillet, août, septembre, 2 mois. Et elle meurt.
Oh là là.
2 mois maximum. Et elle meurt. Voilà le cycle de.
Tout ce boulot pour 2 mois ?
Ouais, tout ce boulot pour 2 mois. Ouais. Et pendant ces 2 mois, il y aura un mâle qui va venir la visiter, qui va venir la féconder. Et elle va avoir le temps de refaire des larves qui vont descendre, elles. le chemin en sens inverse. Alors elles sont toutes petites, microscopiques, et elles rentrent sous terre. Et le cycle continue.
Et ce sont les larves qui descendent. C'est pas,
ah oui.
C'est pas la mère qui non, les emmène
non,
au parc d'enfants, non ?
Non,
c'est
non,
pas
non.
Ça.
La mère, elle reste sur l'arbre.
Et les larves ont la force pour creuser un mètre de terre ?
Ah oui, oui. Tout doucement. Ah ben, disons que la première année, la première année, elle va creuser 10 cm. Et peut-être la deuxième année, elle sera plus en force pour en faire 20.
C'est incroyable, ça.
Oui, oui. Et de plus en plus, elle va creuser jusqu'à ce qu'elle soit prête. Mm-hmm. Voilà. C'est des cycles de vie fabuleux.
Ça, j'ai jamais entendu parler de ça.
Ah oui, mais ça, c'est à force d'observation. Mm-hmm. Parce qu'il ne me suffit pas d'être photographe animalier. Mm-hmm. Moi, j'aime bien savoir comment ça marche, les choses. Je suis très bricoleur. Même une cafetière, il faut que je sache comment elle fonctionne. Oui. Donc même le cycle de la vie, je veux tout savoir, surtout.
Mais les cigales, on a tous l'image de la cigale dans la tête.
Oui.
Et on sait, si on s'est promené un petit peu dans le midi, on sait reconnaître le bruit qu'elles produisent.
Oui.
Je dirais pas le cri, puisque ça n'est pas un cri.
Oui.
C'est elles font ça en frottant les ailes ou les pattes, je sais pas.
Oui.
Alors on ne sait pas toujours qu'il ne s'agit pas d'un cri, voilà, mais on sait reconnaître le bruit qu'elles émettent, d'accord.
Oui.
On voit des représentations, on fait des broches, on fait des céramiques avec la forme des cigales, etc.
Ouais.
Les cigales dans le midi, il y en a chez tous les marchands de souvenirs. Mais on ne sait pas quelle est la taille réelle, on ne sait pas comment elle naît, on ne sait pas comment elle s'exprime avec ses j'allais dire stridulations, mais les stridulations, c'est plutôt ce que font les libellules, hein, je crois.
Oui. Ouais. On n'imagine pas, on ne peut pas imaginer l'histoire des cigales, comment ça fonctionne.
Ouais.
C'est fabuleux.
Et ça mange quoi, les cigales ?
Peut-être des insectes microscopiques, sans doute.
Ouais. Moi, je me
se nourrit, ça ne doit pas beaucoup se nourrir. Hein.
Ouais. Moi, je me souviens que quand j'avais découvert, en étant petite, que les cigales étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grosses que les fourmis, et j'avais dit à la maîtresse, eh ben, la cigale, elle avait qu'à la bouffer, la fourmi. C'était pas aussi simple. Voilà. Bon.
Moi, je la soupçonne même de se nourrir simplement d'écorce d'arbres, de trucs comme ça.
Oui,
voilà.
Probablement. On va peut-être faire connaissance avec d'autres habitants de ton pays.
Oui.
Je vois Tarier.
Des Prés.
Tarier des Prés, oui, Tarier des Prés. Bon, eh bien, allons-y.
Thank you.
Je ne veux pas faire mon intéressante, mais je me demande bien si ce ne sont pas des tariers qui me réveillent tous les matins, moi. Parce qu'il y a le jardin qui est plein d'oiseaux. Il y a des mésanges, il y a beaucoup de merles, il y a des bergeronnettes, il y a beaucoup de pigeons aussi dans le quartier. Mais ce chant-là, c'est ça qui me réveille. Dès que j'ouvre la fenêtre, c'est ce que j'entends.
Ils sont magiques, les oiseaux.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Maintenant, il n'y a pas que les oiseaux que tu es enregistré et étudié. J'aime beaucoup les photos des chevreuils que tu as fait. En fait, les chevreuils, c'est un animal que je n'ai pas beaucoup vu, bien que j'ai fait pas mal de montagnes. Et ce sont les photos de chevreuils que j'ai trouvées les plus émouvantes, les plus réussies parmi les grands mammifères que tu as photographiés. Tu peux nous parler des chevreuils et comment tu les as rencontrés et photographiés, apprivoisés, etc.
Oui, c'est une histoire merveilleuse, ça aussi, les relations avec ces grands mammifères, le chevreuil. Le chevreuil, c'est pareil, ça fait partie du Graal, un peu, de la personne qui veut faire de la photo. Le Graal, c'est avoir des photos de chevreuil. Et après, quand on a des photos de chevreuil, on veut la photo du beau mâle, avec ses jolis bois et tout ça.
Oui. Mais ça doit être terrible à faire, parce qu'ils ont une ouïe extraordinaire. Alors, ils sont réputés pour ça.
Enfin, je sais pas. Il faut être plus malin que eux. Il faut être redoublé de patience, être malin et être inventif. C'est-à-dire qu'il y a une approche. Il y a une approche à faire pour les chevreuils. Lorsque l'on en entre dans la nature, déjà, il faut se comporter comme si nous étions dans une cathédrale, dans un lieu saint, c'est-à-dire avec beaucoup, beaucoup de respect, ne pas faire de bruit. On ne casse pas les branches lorsque l'on marche, on ne secoue pas les branches lorsque l'on se déplace. Il vaut mieux se baisser que de remuer une branche. Parce que lui, de loin, à 100 mètres, il va le voir, hein, et il va l'entendre. Donc c'est une approche déjà très très délicate. Et on peut tomber nez à nez avec un chevreuil, en étant comme ça, en étant très discret.
Nez à nez, tu veux dire à quelle distance?
Allez, de 50 à 100 mètres.
C'est pas mal, hein?
Oui, oui. Il m'est arrivé une fois, autour d'un... toujours dans mon secteur, j'ai grimpé une petite, un petit monticule comme ça, toujours pareil, dans le silence le plus absolu, en chasse photo. Et je suis tombé sur, non pas un chevreuil, mais sur une famille. Ils étaient quatre. Quatre chevreuils. J'ai eu ce contact. Ils étaient à, allez, une trentaine de mètres.
Une trentaine de mètres.
Ouais. Ils n'étaient pas loin. Par chance, j'avais le vent de face.
Ah oui.
Et oui, parce que là, le vent
porte le bruit.
Oui. Il porte le bruit et il porte l'odeur.
Et l'odeur surtout. Je crois que c'est surtout l'odeur.
Oui. Surtout l'odeur. Mmh. Il faut toujours marcher. Contre le vent. Je ne fume pas, mais j'ai toujours un briquet sur moi. De temps en temps, j'allume ma petite flamme pour voir d'où vient l'air. Et je prends l'habitude d'aller contre l'air. Si je veux aller à droite, mais que le vent me porte par le dos, c'est pas la peine, je n'irai pas. C'est pas la peine. Je vais chercher à toujours marcher contre l'air.
De façon à ce que l'air emporte ton odeur ou le bruit
loin,
que tu fais.
Oui, loin derrière, mais surtout pas devant moi.
Oui, pas devant.
Voilà. Il faut que
devant... Pas dans la direction de l'animal, en tout cas.
Pas dans la direction des animaux. Et ça, c'est une des premières règles.
Oui.
Lorsqu'on veut approcher des grands animaux, ça, des mammifères, que ce soit les cerfs, que ce soit les chevreuils, que ce soit les renards, que ce soit... Oui, tous les grands mammifères, tous les beaux mammifères, hein, il faut veiller au sens de l'air. Voilà. Prendre garde d'où vient l'air. Et de ce fait, on peut également choisir de faire un affût. Alors là, il y a des vêtements exprès qui nous camouflent.
Oui.
J'ai des vêtements, j'ai des photos là de où on ne me voit pas du tout. Une fois, j'étais à l'affût, j'étais dans un affût en forêt de grésigne, pas loin, du côté de Gaillac, en affût au cerf. J'étais amitouflé dans ma couverture, mon truc de camouflage. Il y a deux personnes âgées qui se sont approchées à 6 mètres de moi, qui cherchaient des champignons. Et moi, j'étais assis. Je ne bougeais pas. Mon appareil photo fixé sur un pied devant moi. Je ne bougeais pas. Je crois que si j'aurais bougé, ces pauvres dames, elles ont tapé une crise cardiaque. Donc, surtout, je n'ai pas bougé pour ne pas leur faire peur et en espérant qu'elles ne me voyaient pas. Parce que pareil, l'effet de surprise, ça aurait pu être terrible pour elles. Mais presque, j'ai vu, presque, elles allaient venir à mes pieds.
Elles auraient vu l'appareil photo s'il était monté sur pied.
Ah non, mais l'appareil, c'est pareil, il est enveloppé dans le... Il n'y a que l'objectif.
Il n'y a que l'objectif qui...
Qui sort et qui est visible. Et même moi, j'ai la cagoule et tout, les gants, les mains, tout. Tout, je me fonds totalement dans la nature. Voilà. Voilà, qu'est-ce que c'est l'affût. Et grâce à ça, on arrive à se faire approcher par des animaux. En tenant compte toujours du vent.
Oui, c'est vraiment le plus important, je crois.
Une fois, je me suis fait sauter par-dessus un cerf. Il est arrivé derrière, il était pris de panique parce qu'il avait des chiens aux trousses. J'ai entendu les chiens se rapprocher, et puis d'un coup, j'ai senti cet animal qui m'a sauté par-dessus, carrément. Il m'a sauté par-dessus.
Tu as eu de la chance de t'en sortir parce que
Ah oui, j'aurais eu peur.
C'est gros comme une vache.
Il aurait pu poser ses pattes sur moi.
Voilà.
Puisque j'étais camouflé, qu'il ne me voyait pas.
Et en sautant, il multipliait sa force.
Heureusement. Il m'a sauté, il est passé à 4-5 mètres devant moi. Il est tombé, boum, boum, et il a continué sa fuite en avant. Et voilà, jusqu'à ce que je le perde de vue.
Oui, mais ça, c'est un souvenir marquant, là, j'imagine.
J'ai eu l'occasion de lui faire la photo, mais quand même, mais les fesses.
Oui, évidemment.
Voilà.
Dans la fuite. Ça,
ah oui, mais vous savez, la photo, ça réserve beaucoup de surprises. Uh-huh. On sait comment on part, on ne sait pas comment on va. Qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va trouver. C'est fabuleux.
Il y a quelque chose. Oh, j'ai vu une photo d'un Pezotetix giornai. Alors ça, c'est le Pezo bébé.
Oui.
Alors le Pezo bébé, il faut absolument que les auditeurs aillent sur le site pour voir ça. Alors Pezo, c'est P-E-Z-O, T comme titine et E. Et puis deux T encore, deux fois titine, et puis I et X. Pezotetix. Giornao. Giornai.
Oui.
Alors, ce qui est trop rigolo, c'est comment se présente ou comment est la photo que tu as faite d'un Pezo bébé. On se demande s'il est déguisé tant il ressemble à un sundae fraise vanille chocolat. Cette photo... Et donc, celle d'un Pezo bébé, c'est peut-être pourquoi il aborde des couleurs pastel si appétissantes. couleur layette. N'empêche que le Pézo oui. a, dès la naissance, une belle armure en écaille, bien imbriquée. Les cuisses du Pézo sont roses, il ne lui manque que des jartelles. Ses genoux sont jaunes flashy, on dirait des feux de position arrière. Mais en attendant, deux petites cornes rayées d'anneaux noirs, blancs et verts.
Oui.
Et puis des yeux énormes qui ressemblent à un casque de baladeur. Rien que cette photo-là mérite de passer des heures sur le site de René. C'est un vrai tonique, un remède à la déprime. Et toutes les écailles de la carapace sont ourlées d'une finition haute couture du dernier chic parisien. Alors, comme les carnavals reprennent, profitez-en, habillez-vous en Pézo et vous ferez des ravages.
Bravo.
Oh non, mais ça.
Un joli texte.
J'ai rigolé toute seule sur cette photo, c'était trop extraordinaire. Voilà.
Mais disons que moi, quand je fais des photos, moi, souvent, je photographie d'abord et j'emmène ça à la maison. Je le traite de la meilleure façon qu'il soit. Et ensuite, j'ouvre mes livres et je fais des recherches.
Pour savoir si les livres ne suffisent pas, de qui il s'agit.
Quand vraiment ça ne suffit pas, j'appelle à l'aide à un réseau d'amis qui sont, que je connais et qui sont très, très calés. Il faut dire que il y a un truc aussi que j'aurais voulu vous parler un petit peu, c'est de ma relation avec... avec cet art, avec cette passion que j'ai. Toutes les photos du monde ne peuvent pas couvrir la richesse de notre trésor nature.
Ça, c'est sûr.
Ouais. Nombreux sont les animaux qui nous échappent, car exclusivement nocturnes. C'est pas facile. Ces photos que je fais, ce n'est pas un rendez-vous. Elles sont des rencontres furtives et des instants précieux. Chacune d'elles me remplit de bonheur. Simplement à la pensée que ce même événement, ce même instant ne se révélera jamais.
Eh oui.
Ouais.
On ne peut pas les programmer.
Ah non. Moi, je considère la photo animalière comme une quête permanente de la beauté et de l'exception. Ouais, c'est ça aussi. C'est un regard vers la vie, dans ce qu'elle a de plus beau, de plus naturel, de plus vrai et de plus éphémère.
Absolument.
Ah oui, tout ça, c'est toute une histoire. Donc, jour après jour, je suis témoin, et je me rends témoin de ce monde intime qui est de loin mon préféré et qu'aujourd'hui, j'ai plaisir à vous présenter.
Alors, il y a quelque chose, mais c'est pas quelque chose, c'est un personnage que j'ai découvert et qui m'a alors vraiment complètement effarée, émerveillée et rendue même incrédule. La Scalaf souffrait.
Oui.
Alors ça, c'est les photos que tu as faites justement de cette... C'est une libellule finalement. En cherchant, ouais. J'ai fini par comprendre que c'était une libellule. Mais on dirait un personnage humain.
Ah bon?
Moi, j'ai trouvé ça. La photo est prise par en dessous, quand l'insecte vole.
Oui.
On dirait un parachutiste qui fait une démonstration chorégraphique, là.
Ah ouais.
Ah oui, moi, j'ai vu ça. Alors, parce que là, je vous décris la photo que René a faite. Alors, les ailes avant, hein, la Scalaf étant une libellule, elle a quatre ailes. Alors, les ailes avant sont à l'horizontale, perpendiculaires au thorax. Hein. On dirait qu'elle est un peu crucifiée. Bon. Et dans ses ailes avant, il y a une nervure centrale qui est très forte. Et bien, je vous assure qu'à la photo, ouais. On voit cette nervure centrale sur des ailes qui sont écartées comme sur un crucifix. On dirait des bras. On dirait des bras.
Oui.
Et c'est la même chose pour les ailes arrière. Sauf que les ailes arrière, au lieu d'être écartées à l'horizontale et perpendiculaire au thorax, elles sont un peu réunies. Oui. Et ça fait une jupe.
Oui.
Ça fait une jupe. Alors, vous voyez ça, vous avez l'impression que eh ben, c'est une fée qui vole. Voilà.
Oui, oui, pourquoi
mais,
pas.
Mais c'est... Et par-dessus tout ça, vous avez une tête. Une tête qui offre un petit visage, un tout petit visage surmonté d'une couronne en fourrure.
Ah ouais.
Et ben, ah puis il y a des antennes encore qui ajoutent de la majesté. Il y a des très grandes antennes parce que les antennes, elles doivent faire à peu près la moitié de la longueur du corps.
Oui.
Hein. Voilà.
Oui, au moins.
C'est effarant, effarant, effarant. J'ai cherché, j'y croyais pas. J'ai cherché des détails et il semble que ce soit un animal très très courant.
Mais oui, 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 oui.
Et on a, personne n'a vu ça.
Et personne ne voit ça.
Oh.
On ne le voit pas.
Quelle est la taille de cette bestiole? Ah, quand même. Ah oui, les libellules, c'est gros, oui.
C'est quand même
long. Ah oui, 5, 6 ou plus de centimètres.
Oui, de 6 à 8.
Oh là là.
De 6
oh là
à 8. Je vais vous dire une chose. La nature est tellement fantastique que pour moi, elle est une thérapie.
Ah oui, absolument, complètement.
Voilà.
Ah oui.
Et je me suis construit autour de ça. Oui, quand j'étais plus jeune, bon, je faisais pas trop de photos et tout, mais j'étais un petit peu comme tout le monde. Un peu de sport, un peu de ceci, un peu de cela et tout ça. Mais c'est vraiment à la retraite, en prenant ma retraite, que je me suis plongé, mais alors à fond dans la photo animalière. Et ça me remplit de bonheur, quoi.
Ah oui, oui, parce que on se sent créateur alors qu'on n'est que spectateur, finalement.
On n'est que spectateur,
mais
oui.
On immortalise.
Oui, oui et oui. On se contente d'être les témoins.
Voilà.
Les témoins de quelque chose qui existe.
Oui.
Et que beaucoup de gens ne se doutent même pas, parce qu'il suffit de mettre un genou à terre, par exemple. Et le monde, il s'agrandit.
Oui, complètement, oui.
Voilà, un genou à terre, et le monde s'agrandit. L'autre fois, j'étais en observation, et à côté de moi, il y avait une mousse. Une mousse, vous savez, comme il y a en forêt. Mousse verte.
Une mousse verte, oui.
Petite mousse verte. Et puis, à force d'attendre, j'étais en affût pour un oiseau. Mais à force de regarder cette mousse, tout doucement, elle m'a hypnotisé. Parce que, au plus je la regardais, cette mousse, et au plus je la trouvais belle.
Mais c'est très joli, c'est très très joli.
J'ai changé d'objet.
Chaque brin est différent de l'autre. Oui, c'est très très joli.
Du coup, ce que j'ai fait, j'ai changé l'objectif de mon appareil photo. J'ai mis mon macro, un objectif macro. Et je me suis rapproché de cette mousse et je lui ai fait des photos. Mais vous verriez ces photos. La mousse est magnifique dans sa constitution, déjà. Et elle a plein de petites tiges qui montent comme ça, avec des petites boules. Avec des petites boules.
Et
mais
des
ça,
petites...
on le voit.
Il y a des petites boules sur les brins de mousse.
Oui, 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 oui. Mais tout de la même couleur, et tout est vert.
Oui.
C'est-à-dire que ça passe inaperçu. Et à force de les regarder, d'étudier et de me documenter, j'ai appris que ces petites boules... C'était la reproduction de la mousse. C'était son système de reproduction.
Ah oui.
C'est-à-dire
que zoosphère,
il y a une, oui, il y a comme une petite sphère qui monte comme ça, toute petite, mais c'est vraiment petit, petit, petit. Elle éclate. Et bien, malgré que ça soit aussi petit, ça arrive à atteindre un mètre
de distance.
De distance pour aller se reproduire. Ça éclate. Et jusqu'à un mètre autour, il y a des spores qui vont retomber au sol pour reproduire de la mousse. C'est pas magnifique ça.
Extraordinaire, oui.
Et puis en plus de ça, ce qui est magnifique, c'est la constitution lorsqu'on le regarde en macro photo.
Ah oui.
Ça aussi, rien n'échappe. Hein. Rien n'échappe en macro. C'est une Ça aussi, c'est très, très, très bon.
J'ai envie de reprendre mon matériel traditionnel parce que les photos numériques sont tellement faciles.
Oui.
Vraiment, ça me donne envie de reprendre mon vieux... c'était un vieux Zénith que j'avais.
Ah oui, Zénith.
C'était un bon appareil. Mais,
oui.
Antédiluvien, mais heureusement que je l'ai toujours parce que là, j'ai envie d'y retourner. Oui.
C'est vrai qu'on peut faire des photos maintenant, de belles photos, même avec un téléphone.
Oui.
Même fait. Bon.
Et j'aimerais bien qu'on parle d'autres choses qui m'avaient aussi émerveillée. Je savais bien que c'était joli, mais je n'avais jamais vu ça de si près. C'est les chenilles.
Ah, les chenilles.
Alors, René a fait des photos de chenilles.
Les chenilles.
Je vous assure qu'il y en a deux. On croirait qu'elles se préparent pour la piste des folies bergères.
Oui.
Elles sont... Ah non, mais c'est fabuleux, ça. Elles sont enturbanées de plumes d'autruche, on dirait. Enfin, évidemment, les plumes d'autruche, c'est grand, à peu près ça, la taille humaine. Et puis, la chenille, pas tout à fait. Mais ça fait exactement le même effet, parce que c'est la façon dont les... ce sont des poils, on peut dire.
Ah, c'est pas des plumes.
La forêt. Quoique.
Ce sont des poils.
Je me demande où est la différence, finalement.
Ce sont des poils.
Voilà.
Mais il faut être prudent, parce que souvent, ce sont des poils.
C'est urticant.
Urticant. Donc, on regarde. Mais il vaut mieux pas toucher.
Ah non, mais les photos... Je ne sais plus comment elles s'appellent. Ah oui, la chenille, Lithosi quadrille.
Ah oui.
Voilà. Oui, c'est ça. Elle a... Comment on appelle ça? Elle s'est mis un boa pour les folies bergères.
Oui, exact.
C'est exactement ça.
Il y a de quoi se demander comment et pourquoi la nature est si belle.
Ah oui, oui.
Mais c'est fabuleux.
Et le malheur, c'est qu'on ne le voit pas. On ne le sait pas.
On ne sait pas. Ah, pourquoi, pourquoi le créateur nous a fait des trucs pareils, quoi. C'est fantastique.
Mais c'est peut-être pour nous... nous guérir de la bêtise.
Peut-être,
et du chagrin.
Oui.
Parce que quand on voit ça, on regarde cette danseuse de folie bergère, ou on regarde la scalope soufrée qui vole avec bras écartés et avec sa jupe bien tendue pour faire le planeur.
Ouais.
Bon, ben, on n'a plus besoin de Trunksen, hein, ça
ah
y
non,
est, hein, c'est
non,
fini.
Non, on est tranquille.
Ah oui, non, mais c'est vraiment fabuleux.
Ouais. On se guérit, quoi.
On se guérit, absolument.
Ah ouais.
Absolument. Je vois que j'avais noté que la chenille de papillon étoilé.
Oui.
Alors, elle est encore plus sophistiquée que la Lithosi. Évidemment, on aurait envie de la caresser, mais il vaut mieux pas. Alors là, il y a quelque chose que j'ai trouvé complètement invraisemblable. Ces anneaux, puisque une chenille, c'est fait avec des anneaux, hein, c'est comme un verre.
Bon,
ces anneaux s'ouvrent sur le dos pour laisser apparaître des boutons de rose.
Oui.
Là, ils vont pas me croire, là, les auditeurs.
Ah non, là, ils vont pas.
Mais allez sur le site de René, vous verrez si je vous raconte des blagues. Voilà. On se demande si ça existe, ça, si on n'a pas eu une illumination ou une hallucination.
Ah ouais.
Par contre, il y a quelque chose que j'ai trouvé rigolo, aussi bien chez les chenilles que chez les sauterelles, c'est l'espèce de... d'appendice terminal,
oui.
Que j'imaginais anal, et je me dis, oh ben ça c'est un mâle. Eh ben non, mesdames, c'est pas un mâle. Pas
c'est
du
une
tout.
Femelle.
C'est un machin. Ça lui permet de déposer ses œufs où elle veut.
Où elle veut.
Où elle veut. Ouais. Et ce truc-là, ça double. C'est très long. Ça,
oui.
Chez des sauterelles, ça peut atteindre la même longueur que le corps,
que le
thorax.
Oui. Oui, oui.
Je dirais pas les antennes, il ne faut pas exagérer. Oui. Mais voilà, ça double la longueur de la bestiole.
Oui, 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 ça leur sert, oui, à plonger ça dans le sol,
oui,
et à les déposer profondément
les œufs.
Oui. Voilà, comme ça, les œufs sont à l'abri.
Oui. Ça me fait penser aux tortues luttes de Guyane qui font pareil. Elles font des trous dans le sable et puis elles enterrent leurs œufs. Oui. Sauf que leurs œufs, ils sont gros, presque gros comme des ballons. Oui. Disons comme des gros pamplemousses. C'est pas tout à fait la même échelle. Voilà. Est-ce que tu as encore d'autres secrets à nous révéler? Qu'on profite du micro et on n'est pas trop bousculé, si, ou alors tu nous réserves ça pour une autre fois
Oui, on peut laisser ça pour une autre fois. Mais enfin, je reviendrai sur, vite fait, sur les lucioles.
Ah oui.
Ce que je vous ai raconté sur les lucioles, je crois que c'est ce qui m'a le plus choqué dans ma vie. De voir ce spectacle, mais peut-être que ça vient du fait que cette chose-là, je l'ai vue une fois, j'ai espéré le revoir, mais jamais ça s'est reproduit. Mm-mm. Et autour de moi, je ne connais personne qui ait vécu cette expérience.
Tu t'es trouvé dans un nuage de lucioles,
en fait. En pleine nuit. Et je peux vous dire que pour dormir, j'ai mis mon sac à dos, mon sac de couchage, et j'ai dormi, j'étais comme un petit ange. Les lucioles se sont déplacées.
On doit se sentir au paradis, voilà. Là, oui, effectivement.
Les lucioles se sont déplacées. Parce que c'est comme un nuage. Et j'y étais en plein au milieu, et puis une fois que j'ai mis mon petit souk, là, le fait d'être là, ça a fait déplacer ce nuage.
Oui, évidemment.
Voilà. Oui. C'est quelque chose de... C'est une des plus belles choses que j'ai pu voir.
Oui. Mais une des plus belles choses que j'ai pu voir, moi je crois que c'est la Scala. Alors ça m'a absolument sidéré. Mais autre chose qui est plus facile à observer et dont je me suis régalée sur ton site, c'est les photos du gel, du givre. Alors ça, ce que simplement la température est capable de créer sur des surfaces... En fait, c'est surtout, j'allais dire, sur des surfaces lisses. C'est pas seulement sur des surfaces lisses, hein. C'est sur toutes les surfaces.
Toutes les surfaces.
Sur les herbes, sur les écorces.
Vous avez vu le pare-brise avec toutes ces palmes. Toutes ces palmes. On dirait des plumes.
Oui, on dirait des plumes, tout à fait.
On dirait des plumes avec beaucoup, beaucoup de...
De ramures
oui. Et tout ça. C'est fabuleux, encore une fois. Je me dis, la nature est une artiste, quoi.
Ah oui, complètement. Oui, là,
ah oui, on est battu.
On est battu à plat de couture. On n'a plus rien à dire. C'est terrible.
Moi, j'aurais bien vu ça, c'est ce dessin exposé sur une tapisserie, toute une pièce remplie d'une tapisserie représentant ce givre. En ramure, des ramures comme ça, comme des plumes. C'est quelque chose de fabuleux.
Complètement.
On ne comprend pas.
Moi, j'ai beaucoup apprécié le grillage givré. Alors, il n'y a rien de plus laid qu'un grillage. Un grillage, c'est une défense, c'est une frontière.
C'est une frontière.
Et un coup de givre là-dessus et ça fait un chef-d'œuvre.
Ah ouais, avec des aiguilles.
Avec des aiguilles.
Pleines d'aiguilles, des aiguilles qui font au moins très longues, 2 cm de long.
Tout à fait.
Et sur le métal, ça...
Sur le métal, oui. Oui, la meilleure condition pour que ça donne des chefs-d'œuvre de ce genre, c'est probablement une histoire de température, parce que ça s'accroche davantage.
Ça se soude d'une manière...
Oui. Tout à fait.
C'est vrai que le grillage que j'ai présenté, avec ses pointes comme ça, on se dit... interdit de rentrer et double interdiction de rentrer parce qu'il y a des pointes et la chaîne, la grosse chaîne.
J'ai vu la chaîne. Alors la chaîne, elle m'a amusée parce que je savais pas si c'était une chaîne ou si c'était une chenille.
Ah oui, non, c'est une grosse chaîne,
une grosse chaîne,
une chaîne énorme sur laquelle est venue se poser toutes ces aiguilles aussi, blanches, de givre. Mm-hmm. Oui. Des milliers d'épines.
D'épines, oui.
D'épines de givre.
Tout à fait, oui, oui.
Ah, ça change les...
Oui, c'est curieux parce que ça me fait penser à la... aux concrétions de sable dans le désert.
Aussi.
Disons, c'est le même genre de miracle.
Ouais. La formation des stalactites, voilà, des stalagmites et des cristaux.
Oui, oui.
Les cristaux. Aussi.
Oui, on ne sait pas pourquoi le sable s'agglomère tout d'un coup et ça fait une rose des sables et elles sont toutes différentes. Et,
Oh, il y en a des choses merveilleuses dans la vie.
Oui. Eh bien, tu nous prépares une prochaine fournée de merveilles pour une prochaine fois.
Oui, je vais m'y atteler.
Bon. Eh bien,
moi, je vous remercie.
Je te remercie beaucoup. Ouais. Je vous remercie tous les deux de nous avoir permis ce voyage. Et puis, quand il fera peut-être un petit peu plus chaud, ou vous allez vous promener, faire de nouvelles promenades, et puis avec l'appareil photo, bien
et
sûr.
Oui. Voilà. Vive le printemps.
Voilà.
Moi, c'est ma saison préférée, le printemps.
Bon. Eh bien, maintenant, on va écouter une musique qui me semble aller bien avec le voyage que nous venons de faire. C'est du doudouk arménien. Merci René, merci Cathy, et à bientôt.